France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, en cette année 2021, il est fort probable que Camille Saint-Saëns vole la vedette à Déodat Sévrac, pourtant mort comme lui il y a tout juste un siècle, et à Pauline Viardot, née en 1821. Seul Baudelaire et Proust devraient pouvoir rivaliser si l'on reste sur le territoire national. La France semble donc s'intéresser plus que jamais à Saint-Saëns. Elle en devient toquée, timbrée même, puisque le 22 mars prochain, la Poste mettra un timbre à l'effigie du compositeur. Parallèlement, la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra national de Paris présentent une grande exposition dont France Musique est partenaire, qui va se tenir au Palais Garnier et intitulée « Saint-Saëns, un esprit libre ». Elle est accompagnée d'un superbe catalogue réalisé sous la direction de Marie-Gabrielle Soret, commissaire de la dite exposition et mon invité. « Saint-Saëns, un esprit libre » publié par la Bibliothèque nationale de France et l'Opéra national de Paris. Jean-Jacques Kantorov au violon, Jacques Rouvier au piano, c'était le début Allegro agitato de la première sonate pour violon et piano de Camille Saint-Saëns. Bonjour Marie-Gabrielle Soret.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes conservatrice en chef au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France et commissaire de cette exposition Saint-Saëns, un esprit libre et spécialiste d'ailleurs du compositeur, dont vous avez édité une partie de la correspondance et des écrits. Cette première sonate pour violon de Saint-Saëns est un clin d'œil à Proust, puisqu'il y a, apparaît d'ailleurs dans le catalogue un mot de Proust adressé à Saint-Saëns, et il est dit dans la notice qui accompagne ce billet que cette première sonate aurait peut-être inspiré Proust pour la fameuse sonate de Vinteuil. Alors, je l'ai dit en introduction, c'est le catalogue d'une exposition, mais on peut tout à fait ouvrir et consulter ce livre indépendamment de l'exposition, parce qu'il se distingue un peu des catalogues avec traditionnels, avec des numéros, des renvois vraiment, où si on n'a pas vu l'exposition, on est un peu perdu. Là, pas du tout. C'est un ouvrage collectif, déjà, je voulais le préciser, qui est clairement organisé en différentes parties.
Oui, tout à fait. D'abord, ce livre, cet ouvrage dépasse ce statut de catalogue d'exposition. C'est vraiment un livre sur 500 et c'est avant tout dans cet esprit-là que nous l'avons conçu. Donc c'est un ouvrage collectif, comme vous l'avez dit. J'ai évidemment moi-même écrit un article, mais je ne suis que l'humble chef d'orchestre de cet édifice, de cet ouvrage. Je remercie d'ailleurs beaucoup les auteurs de leur contribution et je remercie aussi, je dois dire, le service éditorial de la BNF, parce que ce livre est un produit du confinement, on va dire.
Et
il a été... alors, c'est à la fois ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est qu'on a, les auteurs ont bien pu travailler et nous fournir les textes à temps et nous avons bien pu les relire tranquillement. L'inconvénient, c'est qu'il nous a fallu tout de même faire du bricolage technique, des maquettes prévisionnelles, nous échanger des fichiers dans des conditions parfois acrobatiques.
En tout cas, le résultat éditorial est vraiment superbe. Oui, hein. Très beau travail d'édition. La mise en page, la quadrichromie, tout est vraiment très, très... Très très beau. Un mot peut-être pour commencer, Marie-Gabrielle Soret, sur le titre de cette exposition et la photo que vous avez choisie. C'est non pas l'image du vieux barbu de mauvaise humeur, comme disait Sacha Guitry, mais plutôt un jeune 500 d'une quarantaine d'années. Mais un esprit libre, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'était le point de départ de cette exposition ou plutôt la conclusion de ces travaux?
C'est plutôt la conclusion, en fait, ce que je dirais. C'est un petit peu ce qu'on peut déduire quand on approche Saint-Saëns de près, quand on voit comment il a mené sa vie et sa carrière, vraiment en suivant une direction qu'il s'était fixée et sans se laisser influencer ni par les événements, ni par le contexte, forcément. Donc il a vraiment cette caractéristique qui se présente sous plusieurs composantes. Mais enfin, en tout cas, le titre résume très très bien la personnalité. Ouais.
Même si à la fin il est devenu un personnage officiel qui aura droit à des funérailles nationales en 1921, on apprend à la lecture de ce livre qu'il était obligé d'emprunter un pseudonyme pour voyager incognito et pour pas être dérangé, en même temps qu'il aimait envoyer paître les importuns, comme il le disait lui-même, pour pouvoir travailler tranquillement. 500, c'est aussi, enfin, c'est d'abord peut-être, j'ai envie de dire, une longévité exceptionnelle, né en 1835, mort donc en 1921, et puis 75 ans sur les planches comme pianiste et organiste, un compositeur qui croise Berlioz et qui entend également la musique de Stravinsky, Debussy, Ravel. C'est assez phénoménal.
Oui, c'est tout à fait exceptionnel. On pense qu'il était à la fois contemporain de Chopin et contemporain de Schoenberg. C'est effectivement... Alors, c'est plus de 75 ans sur les planches. C'est véritablement 80 ans, puisqu'il a commencé à donner des concerts privés. Et puis, après avoir annoncé son dernier concert public en 1913, en fait, il en a donné jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est cette triple carrière qu'il a eue, à la fois interprète virtuose au plus haut niveau en tant que pianiste, mais aussi comme organiste, avec une mémoire prodigieuse. Hein, ses contemporains, ça a pu créer certaines jalousies, évidemment. On disait qu'il lisait une fois une partition et qu'il la savait par cœur et qu'il ne l'oubliait pas 30 ans plus tard. Ouais. Avec une vélocité, vous pourrez l'entendre dans les enregistrements, dont il n'a rien perdu jusqu'à la fin de sa vie. Et en même temps, il a mené une carrière de compositeur aussi tout à fait exceptionnelle, puisqu'il a commencé à composer ses premières œuvres à l'âge de 3 ans et demi. Enfin, c'était peut-être pas grand-chose, comme il le dit lui-même, il n'y avait pas de faute. Bon.
Thank you.
Une valse nonchalante en ré bémol majeur, opus 110 de Camille Saint-Saëns, jouée par Camille Saint-Saëns. Alors évidemment, c'est un enregistrement pneumatique restitué tout récemment avec la technique numérique. Marie et Gabriel Sauret, on a évoqué donc cette carrière d'abord de pianiste, hein, avec laquelle Camille Saint-Saëns s'est fait connaître. Enfant prodige, vous avez dit mémoire exceptionnelle, mais en plus pianiste virtuose dès 5-6 ans. 6 ans, son premier concert avec orchestre, je crois.
10 ans,
d'accord. Non, 6 ans, c'est le récital, premier récital. Et donc jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1921, il sera sur scène. Il y a de nombreuses photos, on le voit effectivement, notamment salle Gaveau à Paris, sous la direction de Pierre Monteux. Il avait tous les grands classiques à son répertoire, Bach, Mozart, les concertos, Beethoven, les sonates. Est-ce que la carrière de Saint-Saëns pianiste a fait de l'ombre à celle de Saint-Saëns compositeur?
Oui, certainement. Oui. Ça l'a beaucoup aidé au début. Il disait lui-même que ses doigts de pianiste lui ouvraient les portes des salons. Or, se produire dans les salons, à l'époque, c'était indispensable pour faire une carrière. Mais quand il a voulu commencer à composer, tout le monde s'est... Enfin, faire connaître ses œuvres, il composait déjà. Oui. Tout le monde s'en est étonné en disant, mais enfin, il est si doué devant son clavier, pourquoi est-ce que ça ne lui suffisait pas? Et en plus, quand il a prétendu composer des ouvrages lyriques, alors ça a été encore plus difficile, parce qu'on disait, bah, maintenant qu'il compose des symphonies et des concertos, pourquoi veut-il en plus avoir accès à la scène de l'opéra? Donc ça lui a tout de même beaucoup nui. Mais sa carrière de pianiste, c'était aussi pour lui la porte d'entrée pour la liberté, en fait. Il n'avait pas de fortune personnelle, ses droits d'auteur à une certaine époque ne lui rapportaient pas beaucoup, et c'est vraiment la carrière de pianiste, c'était son gagne-pain.
Oui, en plus, il n'était pas enseignant ou professeur au conservatoire.
Il n'a jamais voulu, justement, pour garder sa liberté.
C'est ça.
Il n'a jamais voulu accepter de poste de professeur au conservatoire. Alors, il était évidemment membre de jury, il intervenait beaucoup. On lui avait proposé aussi pendant un temps la Médicis. Il l'a refusé, justement, pour pouvoir garder sa liberté de mouvement. Et c'était vraiment sa carte de visite, c'était le piano. Mais il jouait évidemment des œuvres de musique ancienne aussi pour les faire connaître. Il mettait par exemple toujours des œuvres de Rameau à ses programmes de concert pour les faire connaître à l'étranger. Et puis naturellement ses propres œuvres.
C'est ça, oui. Et il a fait partie de ce mouvement de redécouverte de la musique dite ancienne à la fin du 19e siècle où effectivement on a commencé d'ailleurs à éditer la musique de Rameau.
Tout à fait, sous sa direction d'ailleurs.
Oui, exactement. Et alors son répertoire, donc, comme pianiste, j'ai dit Bach, Mozart, Beethoven. Mais en fait, c'était beaucoup plus large que ça.
Alors, tout dépend. Il joue aussi des choses pour lui, en privé. Oui. Et puis, oui, en concert, il y a naturellement, avant tout, ses propres œuvres. Alors, ses partitions sont difficiles, bien naturellement, puisqu'il les écrivait pour lui, en priorité. Donc, c'est aussi pour ça que sa musique, il était l'un des compositeurs vivant les plus joués, tant en France qu'à l'étranger, parce qu'il contribuait beaucoup à la diffusion de ses propres œuvres. Mmh. Et puis, il avait tout de même une spécialité qu'était Mozart. Ça, je crois que tout le monde était unanime à reconnaître que on découvrait la musique de Mozart en entendant Saint-Saëns jouer au piano. Il y avait vraiment quelque chose qui passait. Et à l'époque où Mozart n'était plus tellement joué dans les concerts parisiens, il avait organisé toute une série de concertos de concerts de Mozart en jouant tous les concertos à ses frais. Voilà, pour pouvoir les entendre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'était un peu son cheval de bataille aussi. Il en mettait très souvent ses programmes de concert. Puis Mozart et puis Liszt. D'ailleurs, ce double statut de pianiste virtuose et de compositeur, c'est très vraisemblablement ce qui a rapproché Liszt et Saint-Saëns. Ils se sont reconnus, ils se sont soutenus, ils se sont entraidés à cause de cette double carrière dans laquelle tous les deux, ils ont eu des difficultés à se faire reconnaître comme compositeur parce que le pianiste dominait.
Et Saint-Saëns, comme Liszt, composera des poèmes symphoniques.
À la suite de Liszt, voilà.
C'est ça.
Oui, tout à fait. Ils se sont reconnus. Oh, dear, oh, dear, oh, dear.
Mein Herz erschließt sich bei dem Klang deiner Stimme. C'était Ernestine Schumann Heinck avec un orchestre anonyme. Ça gratouille un peu, c'est normal. C'est enregistré en 1905. C'est un extrait de Samson et Dalila que l'on connaît plus généralement en France où mon cœur s'ouvre à ta voix. Alors c'est en allemand, ça peut paraître effectivement bizarre, mais il faut pas oublier que grâce à Liszt, que nous évoquions récemment, Marie-Gabrielle Sauré, grâce à Liszt, Samson et Dalila a été créé donc à Weimar en 1877. En allemand. Voilà. Et donc, cet extrait fait partie de ces enregistrements un peu mythiques qui ont été rangés dans ces urnes de l'opéra au début du XXe siècle. On voit une photo d'ailleurs dans le catalogue où on voit ces urnes qui sont rangées dans les sous-sols de l'opéra Garnier. De quoi s'agit-il alors, si on fait une petite parenthèse sur ces enregistrements historique.
Eh bien, c'était un témoignage qu'avait voulu laisser la compagnie Gramophone. Ouais. Grâce à Alfred Clark, ils avaient organisé une petite cérémonie et on avait convenu d'enfouir dans les sous-sols de l'opéra des témoignages de la vie musicale de ce temps et de les y laisser 100 ans, justement, ça, pour voilà. Les descendants. Et il y a eu une cérémonie ensuite de désenfouissement des urnes, et on a retrouvé donc quelques-unes étaient abîmées. Ouais. On a pu aussi, ça a été très compliqué, parce que les disques avaient été soigneusement emballés dans des bandes d'amiante, qu'il a fallu donc traiter et manipuler de façon particulière. Mais enfin, ça a été très émouvant de pouvoir réentendre ces disques, qui étaient donc tout neufs, ces enregistrements, un siècle après. Ouais. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, il y avait du Saint-Saëns.
Bien sûr. Voilà. Alors, ça nous mène justement à la carrière de Saint-Saëns, compositeur d'opéra, qui a composé 13 opéras, si je ne me trompe.
Voilà, 12 ou 13, tout dépend.
Voilà. Et les débuts ont été difficiles, comme le tout premier, La Princesse Jaune, 1872, ça n'a pas été un succès. Le Timbre d'Argent, pas vraiment non plus. Puis, Samson et Dalila, qui lui a fait la carrière que l'on connaît. Bien tardive, après avoir été créé à Weimar, on vient de le dire. Saint-Saëns et l'opéra, alors c'était évidemment, on le sait à cette époque, c'était la consécration. Un compositeur qui voulait être connu et reconnu, il fallait passer par l'opéra.
Alors, il fallait passer par l'opéra. Saint-Saëns a toujours été très sensible au théâtre, à la voix. Pour lui, c'est le plus beau des instruments. Donc vraiment, l'opéra, c'était une évidence pour lui. Mais il y avait évidemment plusieurs obstacles qui se dressaient. On en a parlé. Sa carrière de pianiste, déjà, faisait obstacle. Et puis aussi, le fait qu'il n'avait pas le prix de Rome. Ce qui, à l'époque, était quand même un sésame important et incontournable. Alors, il est passé par le conservatoire, brièvement. En tout cas, pas pour le piano, puisqu'il savait déjà tout, mais pour la composition. Et la première fois, on ne lui a pas donné le prix de Rome parce qu'il était trop jeune, il avait 16 ans. Et la deuxième fois, il avait quitté le conservatoire depuis bien longtemps. Mais il avait compris que sans prix de Rome, c'était bien difficile. Donc il l'a repassé 12 ans plus tard. Et cette fois, le règlement avait changé. On lui a dit qu'il était trop vieux. Donc Saint-Saëns fait partie des recalés du prix de Rome. Enfin, il y en a d'autres. Bon, il y a Ravel, il y a Messiaen. Voilà. Mais il s'est quand même entêté. Et il faut bien savoir que les premières esquisses de Samson et Dalila, ça date de 1859. Donc il était tout jeune. Mais évidemment, il n'avait aucune chance de le voir reproduire. D'abord, il a pris un librettiste totalement inconnu, ce qui n'était pas quand même un atout. Il n'était pas connu lui-même. Quel directeur d'opéra aurait pris le risque, à cette époque-là, de monter Samson et Dalila? Donc c'est Liszt, une fois de plus, qui l'a soutenu, alors que Saint-Saëns était totalement découragé. Liszt lui a dit « Terminez votre opéra, je le ferai représenter à Weimar ». Sauf qu'il lui a dit ça en 1870 et que la guerre passant par là, ça n'a pu être créé qu'en 1877. Mais il a fallu tout de même attendre 1892 pour que Samson et Dalila gravissent, si je puis dire, main dans la main, les marches du Palais Garnier. Voilà. Mais entre-temps, Saint-Saëns en avait déjà produit beaucoup d'autres. Mais encore une fois, ce sont pas souvent des opéras de commande. Hein. C'est lui qui... Alors, à part Henri VIII, qui est vraiment une commande de l'Opéra de Paris, tout comme Ascanio. Les autres, non, il a fallu vaincre certains obstacles.
Laura Micola au piano, le Tapiola Sinfonietta dirigé par Jean-Jacques Kantorov. C'était la fin de Africa, opus 89 de Camille Saint-Saëns. Marie-Gabrielle Sauret, il y a quelques chapitres aussi dans ce catalogue consacré à Saint-Saëns et à ses voyages, plus de 240 voyages.
Déplacements.
Voilà, oui, une vingtaine de pays. Il parlait plusieurs langues, je crois. Enfin, apprend-on dans le livre. Ses voyages, c'était pourquoi un besoin. Il y avait, on sait qu'il était tuberculeux, donc il lui fallait éviter la grisaille parisienne l'hiver, mais il n'y a pas que ça.
Oui, il y a plusieurs raisons. Donc, d'une part, ses problèmes de santé. La tuberculose, donc à partir de 1870-75, il va vraiment prendre l'habitude de passer les hivers sous des climats plus chauds. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a un goût du voyage aussi, un attrait de l'Orient, de l'étranger. C'est vraiment une composante du personnage. Hein. Le voyage fait vraiment partie de la personnalité de Saint-Saëns. Et puis, tout simplement, il en a besoin pour se mettre en retrait. Pour pouvoir composer, parce qu'à Paris, il est tellement connu absolument partout, sans cesse sollicité, il ne peut composer qu'en s'isolant, et de préférence sous des climats plus chauds.
Ouais. C'est ce qui nous étonne aujourd'hui, on n'a pas idée de la notoriété qui entourait Saint-Saëns à l'époque.
Non, c'est quelque chose qu'on a oublié, il était vraiment extrêmement connu, toujours sollicité, et ça l'énervait d'ailleurs, il avait mauvais caractère, donc il était capable aussi de déconduire les importuns de façon parfois un peu brutale, ce qui n'a pas contribué forcément toujours à sa bonne réputation.
Très bien, merci beaucoup Marie-Gabrielle Sauret. Je rappelle le titre de ce catalogue absolument superbe de cette exposition. Saint-Saëns, un esprit libre, une coédition Bibliothèque Nationale de France, Opéra National de Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Bernard Laniel, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie d'Evelyne Bloch-Dano et nous parlerons de Nathalie Bauer-Lechner et de Gustav Mahler. D'ici là, excellente journée et excellente semaine, bien sûr, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.